Europe 1.
Votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Les grandes voix jusqu'à 19h. Je suis très bien entourée ce soir, Gérard Carrérou. Et dans ce studio, Charles Villeneuve également. Michaël Darmon, merci messieurs, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Je suis ravie évidemment de vous avoir à mes côtés. Et puis vous, auditeurs fidèles, j'espère très présents aussi. Au 39-21 jusqu'à 19h, on va évidemment passer en revue l'actualité politique, notamment de ces dernières heures. Alors Michaël Darmon, éditorialiste politique à Europe 1, je vais me tourner vers vous parce que cette fois, il y va. Bah oui, il y va, Cédric Villani. Il a pris sa décision, il va briguer la mairie de Paris. On attend, parce qu'il fait un peu durer le suspense quand même. En gros, c'est l'annonce de la candidature qui sera la semaine prochaine.
Oui, vraisemblablement le 4 septembre, aux alentours de 19h, il va mettre effectivement sa menace à exécution, celle qu'il avait laissée très clairement entendre dès la fin de l'investiture, hein, en disant voilà, qu'il agirait en toute liberté et qu'il donnait rendez-vous à ses militants à la rentrée. Il a travaillé tout l'été, donc je peux vous dire, les coulisses de son été ont été extrêmement actives pour composer des listes, pour appeler des politiques, des élus, parce qu'il est très soutenu, il a beaucoup de soutien dans l'aile gauche de la Macronie et parmi les écologistes, pour composer des têtes de liste, avoir des gens qui pourraient soutenir sa candidature. Et on voit bien que malgré toutes les tentatives de La République En Marche de l'arrêter, de l'empêcher, eh bien, il va y aller effectivement et il va rentrer en dissidence.
Donc Michaël, il n'a pas entendu ce message, la mise en garde de Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, c'était lundi matin chez Sonia Mahorouk sur Europe 1.
Vous savez, Cédric Villani est un mathématicien, mais ce qu'il faudrait, c'est qu'il soit bon calculateur, si je puis dire. Il y a des choses simples, vous savez, dans la vie politique. La division, c'est l'échec. Le rassemblement, c'est la victoire.
Pourtant, Benjamin Griveaux a aussi proposé à Cédric Villani de copiloter sa campagne des municipales à Paris. Il lui a envoyé une lettre, il l'a dit à David Doucan dans ce studio, lundi. Ça n'a pas suffi, Charles Villeneuve.
Non, j'examinais le regard et le visage de mon ami Gérard Carrérou. Je ne le voyais pas finalement bouleversé par la candidature. C'est un calculateur, je crois, de très haut niveau. Il a eu la médaille Field, etc. Mais enfin, je trouve que cet amoncellement de candidatures ne favorise qu'une seule candidate, finalement, c'est-à-dire Anne Hidalgo. Et de loin, parce qu'entre Rinson, Villani, plus Ganzer, Saporta, qui est la campagne de Jadot, ça fait quoi? Ça fait Bobo, plus écolo, plus socialo. Ça fait beaucoup sur le même créneau.
Ça fera Hidalgo.
Gérard Carrérou, si ben je m'appuie sur Charles Villeneuve, qui parlait de votre regard, donc de votre scepticisme en même temps.
Non,
voilà.
C'est pas,
non,
moi
pas
je trouve que c'est plutôt.
C'est quoi alors?
Moi je trouve plutôt ça sympathique. Parce que,
ça veut tout dire.
Parce que Cédric Villani, c'est un personnage qui représente quelque chose de différent un petit peu dans la vie politique française. Et on manque un peu de personnages comme ça. Et d'autre part, en écoutant Michaël Darmon. Je pense que s'il y a beaucoup de gens qui soutiennent aujourd'hui Villani, c'est parce que les mêmes gens ne soutiennent pas et sont un peu rebutés par la candidature de Griveaux. Hein, c'est un peu pas l'anti-Griveaux, mais c'est un peu quelque chose de contraire.
Il a, le candidat de l'appareil.
Voilà, donc, c'est le contraire de Griveaux.
C'est son contraire. C'est donc, Griveaux, le candidat de l'appareil.
Voilà. Et lui, il se dit, Villani, le candidat des valeurs.
Voilà.
Hein,
oui, donc qu'il tente sa chance, très bien.
En fait, il fait du Macron. Hein. Il bouscule les codes, il change les règles, il est en
disrupteur.
Il
est
disrupteur, comme on dit. Il fait du nouveau monde, ce que le président est de moins en moins, d'ailleurs, au passage. Et finalement... Je pense que ce qu'il a décidé, c'est que la campagne de Griveaux pour l'heure actuelle n'imprime pas, quoi.
Ouais, mais c'est ça. Mais quand même, est-ce que pour clôturer sur ce chapitre-là, est-ce que ça met la Macronie sous pression, oui ou non?
Ah bah c'est intéressant parce que quand même, première rupture politique au sein des marcheurs, et elle se fait pour un scrutin emblématique dans une ville emblématique et entre deux personnages emblématiques, un issu du premier cercle, on va dire de la secte Macron premier cercle, et puis un personnage emblématique de l'extérieur de la politique et qui est venu en politique uniquement parce qu'il voulait soutenir le projet Macron. Oui, donc on est vraiment sur une rupture paradoxale.
C'est la première rupture au sein des marcheurs.
Mais ça montre, Gérard, que la République En Marche n'est pas vraiment structurée.
Alors, elle se structure en tout cas du côté de Bruxelles, peut-être. On en parle dans un instant. Hein, vous voulez bien réagir à cette Sylvie Goulard, la ex-modem Sylvie Goulard proposée par Emmanuel Macron pour la Commission européenne.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec le débat des grandes voix jusqu'à 19h. Ce soir, autour de la table, Gérard Carrérou, Charles Villeneuve et Michaël Darmon. Et puis vous aussi, vos réactions, vos questions, n'hésitez pas, ça se passe dès maintenant au 39-21, le standard d'Europe 1, 50 centimes la minute.
Et vous êtes nombreux d'ailleurs à réagir hein, sur Sylvie Goulard. En fait, il faut quand même qu'on vous explique, c'est désormais officiel après plusieurs jours et heures d'incertitude. C'est finalement l'ancienne et très éphémère hein, ministre des Armées, à peine un mois hein, à ce poste, que l'ex-modem Sylvie Goulard a été proposée aujourd'hui par Emmanuel Macron comme commissaire européenne. Elle succède donc à Pierre Moscovici. On va prendre Laurent dans un instant qui nous appelle de la Vendée. Et Gérard Carrérou, sur Villani, ça vous donnait le sourire en quelque sorte. Sur Sylvie Goulard, il y a quand même plus de choses à dire. On
oui,
a affaire à une pro.
C'est un bon choix. C'est un bon choix parce qu'elle a la compétence. Elle connaît bien les problèmes, effectivement, de l'Europe. Je ne sais pas encore quel portefeuille elle aura. Je pense que le gouvernement français va essayer de peser pour qu'elle ait un poste important dans la sphère économique et sociale. Mais en tout cas, c'est quelqu'un de... Et alors, c'est quelqu'un donc qui a la compétence, on ne peut pas lui nier ça. Elle a eu ce petit problème qui était le problème d'une instruction judiciaire
des assistants
sur les assistants. Bon, qui n'est pas tout à fait réglé, mais enfin,
non. Elle l'a toujours.
Elle l'a toujours. Elle n'est pas mise en examen, mais il y a une enquête.
Elle va traîner ce
L'interrogatoire de fond n'a pas encore été réalisé par le juge.
Ça l'a privée d'un ministère important, puisqu'elle l'a eu ce ministère pendant un mois, donc elle a été quand même privée au demeurant d'un ministère important. Donc c'est presque aussi une compensation. Et puis ça marque quand même à un moment où Macron, où le président Macron fait un changement de cap sur lequel on reviendra peut-être parce que je pense que c'est ça l'événement de la rentrée, et ben ça marque qu'on serre les rangs du côté de la Macronie. Or, elle en fait partie, c'est une fidèle de Bayrou, du Modem, etc. Donc on serre les rangs.
C'est vrai qu'elle est aux côtés du président, déjà du candidat hein, Charles Villeneuve. Michael, vous allez nous livrer les quiz. Elle est vraiment une proche du président de la première heure. Il y a quand même cette affaire des assistants parlementaires avec une enquête toujours en cours. Ça veut dire qu'elle peut, on ne sait pas, être convoquée par la justice.
Oui, non, mais d'abord, elle va certainement subir un grand oral par la commission. Il passe au peigne fin et vous met sur le grill. Elle est impliquée dans le système des emplois fictifs dans le parti, le Modem. Maintenant, elle n'a pas été interrogée sur le fond, elle n'est pas mise en examen et même pas comme témoin assisté. Donc, si vous voulez, rien n'est définitif. Maintenant, elle peut l'être aussi. Et puis, elle a une deuxième petite ombre sur laquelle la commission va l'interroger, sur le fait qu'elle a été salariée de l'OTAN. Et donc, c'est pour ça aussi que, notamment sur le plan du ministère de la Défense, au début du quinquennat, cette ombre, j'appelle ça une ombre au tableau, mais enfin bon, c'était son job. Et c'est une vraie experte sur ce plan-là, mais de très haut niveau. Elle parle l'allemand, elle parle l'italien, elle parle l'anglais. Elle est vraiment excellente et elle est compétente.
Elle est compétente. Oui. Michaël Darmon, ça a tardé un peu quand même. Hein, oui. On a eu du mal à sortir son nom du chapeau. Il était question d'abord de Florence Parly, ministre des Armées. Enfin, c'est ce qu'on entendait. Et puis donc, Sylvie Goulard.
Bah, c'est un feuilleton qui a duré effectivement plusieurs semaines et qui s'est terminé au finish, au-delà de la date d'ailleurs limite. Hein. Macron va demander un délai supplémentaire pour cause de G7, mais aussi parce que ça coinçait. Parce qu'en fait, Florence Parly, qui était effectivement sollicitée, qui était jusqu'à encore il y a quelques jours dans ce qu'on appelle la shortlist, elle a résisté. Elle ne voulait pas y aller d'abord parce qu'elle se déclarait très heureuse au ministère de la Défense. Il y a aussi des raisons personnelles. Elle est installée à Paris avec sa famille, avec ses enfants. Elle ne voulait pas donc quitter la capitale et partir à Bruxelles. Et donc, il a fallu trouver donc quelqu'un. Donc, depuis quelques jours, Sylvie Goulard s'entend qu'elle avait aussi une brèche nouvelle pour enfin sortir de la Banque de France et revenir donc sur son terrain de prédilection. Effectivement, c'est une grande experte en matière européenne. Et là, elle a mis le paquet, elle y est allée. Et il a fallu, jusqu'à ce matin encore, on me le disait, du côté de l'Élysée, il a fallu qu'elle réussisse à convaincre que son histoire était terminée. Or, elle dit qu'il y aura de bonnes nouvelles bientôt venant de la justice. Oui. Il faudra, un, qu'elle vienne, et deux, par rapport au test qu'elle va passer devant les députés européens, qui sont féroces hein, vis-à-vis des candidats. Moscovici nous disait que c'était comme l'oral de l'ENA hein, qui devait repasser. Oui. Là, ils ne vont pas la louper,
c'est ça.
En particulier avec cette affaire
mais
de lobbying.
On se dit quand même, Michael, et on va prendre Laurent qui nous appelle de la Vendée, on se dit quand même qu'il devrait ne pas y avoir grand-chose dans le dossier, sinon Emmanuel Macron n'y serait pas allé.
Eh bien, c'est un risque.
C'est un risque
parce que les députés européens, ils ont pour tradition à chaque commission nouvelle de retoquer quelqu'un. Mmh. Et donc, il faudrait pas que, donc, exceptionnellement, alors que ça ne se fait jamais, ça soit la candidate de la France.
La candidate d'Emmanuel Macron. Laurent, vous nous appelez de la Vendée au 39-21 pour Europe 1 ce soir. Merci, bonsoir.
Oui, bonsoir Nathalie.
Cette candidature, vous la validez, c'est un bon signal. Elle a les compétences, on l'a dit, le plurilinguisme, la passion de l'Europe.
Absolument de ce côté-là, moi je ne remets pas en cause. Par contre, je reste quand même surpris par le choix d'Emmanuel Macron, qui je rejoins ce que disait donc votre chroniqueur. Je m'attends à ce qu'on soit entre guillemets reçu au niveau du Parlement européen.
Hein ? C'est-à-dire ? Vous pensez que ça ne va pas passer ?
Je pense que ça passera pas. Je pense qu'Emmanuel Macron, qui commence à être pas mal jalouse au niveau Europe, est attendu au tournant de ce côté-là.
Mais sur les affaires, vous voulez dire, ou sur, sur la personnalité ? Parce que vous voulez dire quoi ? Que ça envoie un drôle de message, une affaire qui n'est pas jugée, une commissaire nommée qui pouvait pas être ministre, c'est ça, c'est le drôle de message qui vous...
Non, ce que je veux dire, c'est que l'Europe veut se donner une image propre et je vois mal l'Europe valider la candidature de quelqu'un qui, même si elle reste présumée innocente, a, je dirais, entre guillemets, des affaires derrière elle.
Monsieur, si vous me permettez, Gérard Carrérou, si vous me permettez, je serais quand même extrêmement surpris que le président Macron se soit lancé dans l'opération sans avoir pris quelques avis. Parce que ça serait quand même un camouflet assez fort pour le président. Il n'a pas besoin de ça en ce moment. Il est en train de faire un recul stratégique sur un certain nombre de dossiers majeurs. Il n'a pas besoin d'une retocade du Parlement européen à l'égard du commissaire choisi par la France.
Effectivement, d'autant plus qu'on sait qu'il a quand même beaucoup contribué à ce que Ursula von der Leyen soit à ce poste-là. Donc on peut penser quand même qu'il a aussi pris quelques assurances de ne pas être mis en difficulté. Mais c'est vrai que,
Le signal, pardonnez-moi, voilà, messieurs, et je rejoins un peu Laurent, le signal, il n'est pas si flatteur que ça pour l'Union.
Peut-être, en tout cas, ça veut dire aussi, parce que certains le disent, en tout cas me l'expliquent aussi, ils considèrent au fond que pour Emmanuel Macron, l'essentiel, c'est d'avoir effectivement influé sur le choix de la présidence de la Commission et que le reste, il n'en a pas grand-chose à faire en réalité. Et au fond, ils pensent qu'un commissaire européen, ce n'est pas très important. L'Europe, c'est un peu lui, c'est un peu les grandes instances. Et quelque part, il a aussi donné du temps pour une décision qu'il considère quand même, au fond, comme secondaire.
C'est curieux quand même.
C'est curieux quand même.
Quand on néglige autant la commissaire française.
C'est quand même important, le commissaire européen.
C'est très important.
Oui, le commissaire européen français.
Moi, je pense m'explique, pas qu'il passe c'est que pour ça, c'est pas perte profit. Je pense pas.
Merci Laurent, en tout cas, de nous avoir joints au 39-21 depuis la Vendée. Merci de nous être fidèles sur Europe 1. Alors, Sylvie Goulard, ça se poursuivra, évidemment, avec le processus qui se conclura le 22 octobre. Vous nous avez exprimé, évidemment, votre analyse tous et on se retrouve donc dans un instant avec une troisième partie. La droite, l'élection à la présidence des Républicains avec le coup d'envoi hier soir.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy, c'est jusqu'à 20h. Votre grand journal du soir sur Europe 1, la suite du débat des grandes voix avec ce soir autour de vous Nathalie Lévy, Gérard Carrérou, Charles Villeneuve et Mickaël Darmon. Et bien sûr, toutes vos questions, venez interpeller vos grandes voix, ça se passe au 39-21, 50 centimes la minute.
Alors ils sont en course pour la présidence des Républicains, ce sera le 12 et le 13 octobre. Ça a démarré hier avec Christian Jacob sur scène, trois candidats, Christian Jacob, Guillaume Larrive et Julien Aubert pour être exact. Entre temps, il y a eu la débâcle historique des Européennes, 8,4%. Charles Villeneuve, qu'est-ce qu'il faut là pour y aller, pour avancer, pour survivre, pour surnager ?
Moi, pour moi, la question centrale pour la droite n'est pas finalement celui qui va être élu, puisqu'on le sait quasiment d'avance.
Il n'y a pas de suspense.
C'est quel sera son positionnement par rapport notamment sur la question des retraites, sur les questions économiques et sociales. Parce qu'il y a une attente qui, à mon avis, sera déçue, c'est celle des non pas municipales, parce que ça se fera sans les partis politiques. Et puis, les municipales ne sont pas le décalque exact, contrairement à ce qu'on peut entendre, notamment, en tout cas, c'est l'espoir de La République en marche, des européennes. Ça n'a rien à voir. C'est un homme, c'est un bilan, c'est une équipe, c'est un projet. Mmh. C'est ça, les municipales. Mmh. Et ça se fera, en partie, sans les partis politiques. Et la droite est assez forte sur ce plan-là, ainsi que le Parti socialiste, il ne faut pas l'oublier. Il y a beaucoup d'élus de sortie. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, pour finir avec ça, c'est le résultat des deux outsiders, Guillaume Larrivé et Julien Aubert. L'un est plutôt un souverainiste, Aubert, et l'autre est plutôt un libéral, de droite, mais de droite sociale, Guillaume Larrivé.
Et c'est hier soir dans
quel
studio.
Score vont-ils faire ? Je trouve que c'est assez intéressant.
Mais la vraie rentrée de la droite, aujourd'hui, c'est une petite péripétie, l'élection. C'est l'élection d'un intérimaire, un monsieur qui va chauffer la place en attendant que la droite se retrouve...
Et qui ne sera pas candidat à l'élection présidentielle.
Bah oui,
en attendant
évidemment,
que la droite se retrouve un vrai patron.
C'est ça. Alors
comment
refonder le parti ? C'est ce qu'il dit Christian Jacob, même si on ne va pas zoomer sur Christian Jacob, ça va au-delà de ça. Mais il y a les partisans de l'Union des droites, il y a ceux qui veulent moderniser le parti. En gros, est-ce que la droite, elle a encore un espace?
Ils vont être soumis à des forces centrifuges incroyables. Il y a toute une partie maintenant également des électeurs LR qui veulent la grande droite, qui veulent un rassemblement avec le Rassemblement national et qui considèrent que sans ça, ils ne pourront jamais revenir au pouvoir. Moi, ce qui me frappe d'une manière plus générale, dans cette rentrée, pour les deux partis, comme Charles venait d'évoquer, les deux partis, anciens partis de gouvernement, c'est qu'au fond, ils partagent les mêmes problèmes. Ils ont à la fois un problème de corpus, un problème d'incarnation, de leader, et effectivement un problème d'espace politique. Et ils partagent également le même objectif, c'est comment briser ce match Macron-Le Pen installé, qui semble indélogeable pour l'instant et qui les prive de tout espace. Et ça va être l'enjeu, à la fois pour ceux qui tentent de faire quelque chose, on va certainement assister à des initiatives du côté de Bernard Cazeneuve bientôt, et à la fois vers ceux qui se préparent à une candidature à droite pour 2022, c'est comment briser,
alors pour moi,
casser le match.
Je ne sais pas
pour
si Charles tu es d'accord, Gérard. La question, à cette question, la réponse la plus importante est celle qui va intervenir quelques mois seulement avant l'élection présidentielle, aux élections régionales.
Absolument.
C'est là qu'on verra vraiment, si vous voulez, ce sera le test.
Mais en attendant, moi je maintiens que la rentrée politique aujourd'hui se joue sur une question forte, c'est le changement de cap, on l'a esquissé déjà, mais c'est le changement de cap du président de la République aujourd'hui, et c'est clair, et c'est encore clair.
Qui neutralise en fait.
C'est-à-dire qu'il a donné beaucoup de gages à la droite pendant les deux premières années. Il est obsédé par l'idée que, attention à un phénomène style gilet jaune, voilà. Surtout pas. C'est encore un ministre qui l'a dit, le maire, on ne forcera la main à personne sur aucun sujet. Et c'est interprété, qu'on le veuille ou non, attends, quand on n'avance pas en politique, on
d'où
recule.
D'où l'inflexion sur le régime sur des
retraites. On a l'auditeur,
Michel. Et surtout Michel. Jusqu'aujourd'hui, jour pour jour, hein, le 28 août, il y a un an, Hulot démissionnait et les ennuis commençaient.
Jean-Claude nous appelle de Brive. Jean-Claude, quand même.
Bonjour,
Jean-Claude, merci beaucoup d'avoir été patient et de nous appeler sur Europe 1. Qu'est-ce que vous dites, vous, quand vous voyez là aujourd'hui le visage de cette droite, Macron qui les a neutralisés? Vous dites qu'il faut changer de cap, garder le cap. Qu'est-ce qu'on fait?
Je dirais peut-être, mais pas que. Il y avait surtout une composante à l'époque de l'ancienne droite que l'on appelait UMP, une ancienne composante qui marchait très fort, c'est le P du populaire. C'est-à-dire, c'était une droite qui était populaire dans la société, décomplexée et qui représentait pas mal de choses. À l'heure actuelle, Les Républicains a perdu cette envergure. Avec le départ de plusieurs figures politiques vers la Macronie. Et je pense qu'il faudrait revenir vers cette ancienne droite populaire qui marchait si bien. Je pense que ce serait plutôt la clé du succès.
Ce serait plutôt la clé du succès. Oui. Donc revenir aux fondamentaux, oui, en fait, oui, hein, si j'entends Jean-Claude.
Sarkozy,
merci beaucoup.
Au sarkozysme.
Il a raison, notre ami auditeur.
Jean-Claude de Brive.
Cette dimension-là bien manque. Sûr. Absolument, oui, il a raison.
Jean-Claude nous a appelé de Brive. Merci à vous trois, messieurs. Merci beaucoup, Gérard Carrérou, Charles Villeneuve, Mickaël Darmon. D'ailleurs, Mickaël, on prend note, hein, dimanche, de 10h à 11h, pour le premier grand rendez-vous de la saison avec CNews et Les Échos. Vous êtes au micro, on vous retrouve donc dimanche. Merci beaucoup. Merci, messieurs.
Merci. Europe 1.